Alors je vous propose que nous commencions en nous tournant vers la Vierge Marie.
Je vous salue Marie.
Notre-Dame de la Roche, Notre-Dame des Neiges, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors bonsoir à chacune et à chacun. Après avoir suivi les brillantes interventions de mes prédécesseurs, comme disait le Père Lubeau sur la vocation spécifique de l'homme, puis sur l'explication de ce verset du psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» nous continuons notre cycle de conférences des dimanches de carême par cette troisième rencontre que j'ai intitulée « Femme, qui es-tu ?» Alors en guise d'introduction, je voudrais commencer par rappeler en quelques mots le magnifique projet du Créateur sur l'homme et la femme. Dieu veut, dans son plan d'amour, faire de l'un et de l'autre son fils et sa fille, et désire que chacun soit, pour sa part, le reflet de sa beauté divine. Magnifique projet que sa créature rejette en se laissant séduire par le prince de ce monde. Le péché originel va complètement changer la donne en perturbant profondément ce projet divin. La femme, comme l'homme, sont de fait touchés dans leur être même et il leur devient désormais impossible, par eux-mêmes, de retrouver leur identité profonde. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde infinie, leur promet un sauveur qui leur obtiendra les grâces nécessaires pour pouvoir correspondre à nouveau à leur charisme propre. Or, cette œuvre de rédemption va s'accomplir avec le concours d'une femme qui, par son obéissance absolue à Dieu, va donner à toute femme le modèle par excellence de la féminité parfaitement accomplie. J'ai nommé la nouvelle Ève, la Vierge Marie. Alors, faire de la Vierge Marie l'image parfaite de la femme peut sembler provocateur ou pour le moins anachronique. Notre pape émérite, Benoît XVI, alors qu'il n'était encore que le cardinal Ratzinger, bien conscient de la mentalité de nos sociétés occidentales sur la vision de la femme, n'hésita pourtant pas à affirmer, au cours de son entretien sur la foi avec Vittorio Messori il y a quelques années, je le cite, « Par son dessein, qui est à la fois de vierge et de mère, Marie connut de projeter une lumière sur ce que le Créateur a eu comme dessein pour la femme de tous les temps, le nôtre y compris, et peut-être surtout le nôtre, où, comme nous le savons, se trouve menacée l'essence même de la féminité. » Fin de citation. Telle est donc la réponse du futur Benoît XVI à notre société qui rejette volontiers le mystère de la femme au bénéfice d'une égalité qui vaudrait à cette dernière les mêmes postes de responsabilité et de pouvoir qu'aux hommes. Piège auquel se laissent prendre bon nombre de nos contemporaines, plus soucieuses malheureusement d'accéder aux valeurs de référence couramment admises que de faire leur les valeurs spirituelles qui leur sont propres et qui font leur grandeur. Jean-Paul II le souligne dans sa lettre apostolique « Mulieris Dignitatem » au paragraphe 10. Je le cite. « Les ressources personnelles de la féminité ne sont certes pas moindres que celles de la masculinité, mais elles sont seulement différentes. La femme doit donc envisager son épanouissement personnel, sa dignité et sa vocation en fonction de ses ressources, selon la richesse de la féminité qu'elle a reçue le jour de la création et dont elle hérite comme une expression à l'image et à la ressemblance de Dieu qui lui est particulière. » Fin de citation. Je crois sans, dans un de ses livres intitulé « La femme sacerdotale », n'hésite pas à dire, et je la cite, « Il existe une dévalorisation des dons propres à la femme, tant au plan biologique qu'au plan spirituel. En évacuant toute notion de mission spécifique, on finit par dévaloriser la femme elle-même. L'homme et la femme ne savent plus qui ils sont et n'osent plus s'affirmer dans leur identité. Leurs enfants ne savent plus à qui s'identifier. Ils ont perdu leur repère. » Et elle termine en disant « Nous assistons à l'avènement d'une société androgyne. » J'ajouterai volontiers que cette crise d'identité inquiétante est tristement confirmée par les lois que se donnent aujourd'hui nos pays occidentaux. Parmi beaucoup d'autres, je pense à celles qui concernent l'élargissement de la parenté. Or, nous affirmons avec l'Église tout entière que la Vierge Marie, la femme dans toute sa vérité et sa beauté de nature et de grâce, peut seule nous faire redécouvrir la mission de la femme, elle qui nous dévoile le rôle primordial et irremplaçable que Dieu lui a confié dans le plan du salut. » Dans « Mulieris Dignitatem », au paragraphe 11, Jean-Paul II disait « En Marie, Ève redécouvre la véritable dignité de la femme. » Oui, le témoignage de Marie est plus que jamais actuel. Je vous propose donc que nous l'approfondissions ensemble. Et pour ce faire, nous allons revenir tout d'abord sur ce rôle de tout premier plan que Dieu a confié à sa fidèle servante. Puis, dans un second temps, nous mettrons en relief les qualités typiquement féminines de Notre-Dame, qualités sur lesquelles Dieu s'est appuyé pour mener à bien son œuvre de salut, et qui sont, comme nous le verrons au fur et à mesure de notre intervention, des qualités appelées à s'épanouir en toute femme. Comment ne pas rappeler ici avec quelle énergie les derniers papes, Jean-Paul II et Benoît XVI tout particulièrement, ont souligné l'importance du plein épanouissement du charisme féminin en chacune de nous, et ceci non seulement pour notre propre bien, mais également pour celui de l'humanité tout entière. Alors donc, voyons dans un premier temps la place de la nouvelle Ève dans le plan du salut. Monseigneur Béjot, ancien évêque auxiliaire de Reims, à qui l'on demandait une définition du mystère du salut, fit cette réponse pleine d'humour. Le mystère du salut, c'est la Trinité qui se met en quatre pour sauver l'homme. En effet, le Père envoie son Fils par l'opération du Saint-Esprit pour adopter l'humanité par l'intermédiaire de Marie. C'est déjà dire la place unique que tient cette dernière dans l'économie chrétienne. Après avoir multiplié les alliances avec son peuple tout au long de l'Ancien Testament, Dieu, quand vint la plénitude des temps, nous dit la Bible, conclut avec lui une alliance nouvelle et cette fois qui sera éternelle. Il la scelle avec une créature, mais pas n'importe quelle créature. Dieu la conçoit dans son esprit, idéale, unique, incomparable, incapable de le décevoir en quoi que ce soit, répondant parfaitement à tout ce qu'il veut. Et cette créature, Dieu l'a voulu femme. Il s'est complu à penser que ses élans, cet amour sans partage qu'il en recevrait, viendrait d'un cœur de femme. Magnifique preuve d'estime, d'ailleurs soulignée par Jean-Paul II dans « Familiaris Consortio », je le cite. Dieu manifeste la dignité de la femme de la manière la plus élevée possible en assumant lui-même la chair de la Vierge Marie que l'Église honore comme la Mère de Dieu en l'appelant la Nouvelle Ève et en la proposant comme modèle de la femme rachetée. Fin de citation. Cette créature merveilleuse, c'est l'Immaculée. C'est ce titre qui a fait d'elle l'aimée de Dieu, la créature nouvelle, sortie pure des mains de son Créateur, justifiée par avance dans le Christ et sanctifiée dans l'Esprit Saint. Faut-il rappeler ici que toutes les prérogatives de la Vierge Marie n'enlèvent rien à son caractère initial de femme. Elles l'achèvent sans le modifier, elles l'épanouissent sans y rien retrancher. Elle a cette délicatesse, cette sensibilité, cette intuition qu'on reconnaît facilement à la femme comme un bien propre, même si, bien sûr, elle les possède infiniment plus que nous. Et si ses prérogatives n'enlèvent rien à son caractère initial de femme, elle la laisse en même temps parfaitement libre, car Dieu ne veut allier sa divinité qu'à une humanité capable de donner à son amour une réponse libre. Aussi, même dans cet état de grâce exceptionnelle, et contrairement à ce que l'on croit facilement, la liberté de la Vierge Immaculée reste totale. Et il se trouve que sa réponse, bien que ne tenant qu'à elle, va engager toute l'humanité. Saint Thomas précise : il fallait que quelqu'un, en lieu et place de l'humanité tout entière, dise à Dieu le oui plein et total d'Israël, afin que sa parole trouve sur terre un endroit où reposer pour devenir homme. À l'ange, la Vierge Marie répond : qu'il me soit fait selon ta parole. Aussi, par son oui, Marie devient l'épouse idéale et nous apprend à nous, femmes, les qualités humaines irremplaçables attachées à notre nature féminine d'épouse. Elle devient aussi symbole de réconciliation et elle nous apprend à nous, femmes, que nous avons une vocation particulière au service de l'unité. Elle devient en même temps la mère idéale et nous apprend à nous, femmes, les qualités humaines irremplaçables attachées à notre nature féminine de mère. Alors je me propose maintenant de vous livrer quelques éléments de réflexion sur chacune de ces trois qualités présente en Marie et qui ne demande qu'à s'épanouir en chacune de nous. Marie est donc l'épouse idéale. Pour mieux pénétrer ce mystère d'amour de Dieu pour l'humanité, humanité représentée à l'Annonciation par la Vierge Marie, il est bon de reprendre les termes symboliques d'époux et d'épouse. Déjà, dans l'Ancien Testament, les rapports du Dieu d'Israël avec son peuple sont décrits par les prophètes sous la figure d'un mystère nuptial. Quand Dieu interpelle son peuple, il lui parle comme un fiancé, comme un époux. Israël est la fiancée, l'épouse. Image qui préparait cette réalité du mariage définitif du nouveau peuple de Dieu avec l'agneau de la Jérusalem céleste. Jean-Paul II nous fait remarquer dans Mulieris Dignitatem, au paragraphe 5, que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu conclut son alliance avec l'humanité, il ne s'adresse qu'à des hommes, Noé, Abraham, Moïse. Au commencement de la nouvelle alliance, qui doit être éternelle et irrévocable, il s'adresse à une femme, la Vierge de Nazareth. Dieu n'avait-il pas d'ailleurs, dès l'origine, annoncé son projet de nouer une alliance avec la femme? Et le Créateur a aimé l'humanité en Marie, son épouse. Oui, désormais, toutes les générations la diront bienheureuse. Elle est l'image parfaite de l'humanité rachetée, aimée de Dieu, qu'il a pu épouser pour en lui la diviniser. Comme épouse, elle a communié aux aspirations de son époux divin, elle a partagé ses préoccupations, elle a fait sienne tout ce qui lui tenait à cœur. En un mot, elle l'a aimé et s'est donnée sans rien retenir pour elle. Elle est devenue l'épouse parfaite. Eh bien, à travers la Vierge Marie, la femme est comme directement associée au mystère des épousailles, et lui voici dévoilée du même coup sa vocation d'épouse. Elle doit être, pour l'humanité, à l'exemple de Marie, la porteuse du divin, l'instrument, ou mieux, la collaboratrice de Dieu. Comme épouse, elle est celle qui apporte l'amour. Elle est celle qui aime. La femme est par nature assoiffée d'amour. Elle a des idées merveilleuses sur le mariage, sur les relations entre les êtres. C'est réellement la grâce de la femme d'aimer. D'ailleurs, remarquons au passage que c'est à l'homme que saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, dit qu'il faut aimer. Marie, aimez vos femmes. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Mais il n'a pas recommandé aux femmes d'aimer leur mari. C'est tellement naturel pour la femme d'aimer. On peut dire qu'elle est amour dans sa constitution même. Pourtant, l'amour n'étant pas d'abord une affaire de sentiment, mais de volonté, cela exige de sa part qu'elle prenne la ferme décision d'aimer. Or, bien qu'aimer soit inscrit au plus profond de son être, comme je viens de vous le dire, la femme, contaminée par la société tellement égoïste dans laquelle nous vivons, est menacée de renier ses dispositions inscrites dans sa nature même et d'abandonner le combat pour l'amour. Cet abandon serait une grave infidélité à sa vocation et au projet de Dieu sur elle. En même temps, elle pénaliserait lourdement l'humanité tout entière. Redisons-le, tout en elle est fait pour l'amour. Aussi, c'est en aimant que la femme trouve sa véritable identité, son plein épanouissement. Cet amour d'épouse implique dans un même élan, de sortir de soi-même pour se donner à l'autre. La femme porte en elle la puissance la plus extraordinaire de don de soi, mais là encore, contaminée par l'ambiance individualiste de notre vie moderne, elle peut être tentée de gaspiller ce trésor en restant centrée sur elle-même, attendant de recevoir avant de donner, au risque d'étouffer ce don précieux qui lui est propre. Mais qu'est-ce que c'est que se donner ? Se donner, c'est servir, penser d'abord aux autres, partager, sans cesse donner de la joie. L'épouse inaugure, à l'exemple de Marie, un nouveau type de relation qui n'est pas recherche de soi en dominant l'autre, mais un don de soi à l'autre. Et ce don peut aller jusqu'au sacrifice de sa vie. Et si l'amour vient à manquer autour de l'épouse, il lui appartient de pallier, de réparer les dégâts, d'aimer sans se décourager. Sainte Thérèse résume en une phrase ce que nous venons de dire : aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Telles sont les qualités humaines irremplaçables attachées à la nature féminine d'épouse, présente en chaque femme, et ceci qu'elle soit célibataire, mariée ou consacrée, car quel que soit son état de vie, elle est toujours femme. Venons-en à la deuxième qualité de la nouvelle Ève. Marie est symbole de réconciliation. Au début du monde, la communion humaine était le reflet de la communion trinitaire. Mais Satan brisa cette communion des créatures avec Dieu et des créatures entre elles. Il présenta Dieu non comme un père de qui la créature avait tout à recevoir, mais comme un rival que chacun pour sa part voulut égaler. Le résultat ne se fit pas attendre. Le péché humain a fendu l'essence humaine, s'exclame saint Basile. Et saint Augustin de préciser, Adam tombé, se brisant en quelque sorte, a rempli de ses débris le monde entier. Par son fiat, par son oui, Marie devient le lieu de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Voilà que dans le corps de la Vierge est célébrée, comme dans un nouveau paradis terrestre, l'union de Dieu avec l'homme. Mais dans cette tâche de réconciliation, peut-être d'ailleurs plus qu'en tout autre, Notre-Dame se trouve confrontée à l'adversaire avec un grand A. C'est ainsi que la Genèse souligne au chapitre 3, verset 15 « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. » Jean-Paul II confirmait cette réalité le 1er janvier 1984 en la fête de la maternité de Marie. Voici ce qu'il disait. Marie est destinée à devenir l'alliée de Dieu dans la lutte contre le démon. Fin de citation. C'est la raison profonde de l'hostilité traditionnelle entre la femme et le serpent. Satan ne veut pas de cette unité reconstruite. Tout effort de réconciliation l'irrite, car il est par essence celui qui divise. C'est à travers la femme que l'humanité tout entière est invitée à se rapprocher de son Créateur. Jean-Paul II l'exprime clairement dans « Mulieris Dignitatem » au paragraphe 11, lorsqu'il écrit « Les paroles du Protévangile, relues à la lumière du Nouveau Testament, expriment de façon adéquate la mission de la femme dans la lutte salvifique du Rédempteur contre l'auteur du mal » dans l'histoire de l'homme. Fin de citation. Ici apparaît, à travers le rôle que Dieu assigne à la Vierge Marie, un nouvel aspect fondamental de la vocation des femmes que nous sommes. À son exemple, nous sommes au service d'un rapprochement, d'un accord, de la restauration de l'unité qui s'oppose à la rupture originelle et annonce le royaume de Dieu au service de la communion. En d'autres termes, la Vierge Marie montre à l'humanité un nouveau chemin, celui de l'unité retrouvée, où le rôle de toute femme apparaît comme essentiel. Quel symbole, quel charisme ! La femme, signe d'unité, opposée à Satan, esprit de division. Mais de fait, comme Marie, la femme sera aussi confrontée à l'adversaire. Cette hostilité, établie dans la Genèse entre elle et le serpent, se retrouve dans l'Apocalypse et en conséquence couvre toute l'histoire de l'humanité et donc aussi les temps que nous vivons. Ainsi, la femme est-elle sollicitée pour mener ce combat, un combat tout particulièrement dans deux domaines, celui de son couple et celui de la famille. Le péché originel exige particulièrement au niveau de la communion entre l'homme et la femme une reconquête de l'unité, car le péché des origines a introduit une dissonance dans le couple. Dieu était son unité et faisait sa merveilleuse harmonie. À la suite du péché, ayant peur de Dieu, nos premiers parents ont échappé à son regard et se sont retrouvés l'un en face de l'autre. L'homme est passé de l'émerveillement au reproche, et désormais, il se méfiera de la femme comme de celle qui peut le faire tomber. En même temps, il restera toujours en quête de cet être merveilleux que Dieu a voulu pour lui. Quant à la femme, elle est tournée vers l'homme. Elle a reporté sur lui toute son attente, une attente que jamais nul homme ne pourra combler, mais qui, à cause de la faiblesse dont elle venait de faire l'expérience, la prédisposait à être dominée malgré elle et qui prédisposait l'homme à, je dirais, profiter de sa force. Ainsi, entre l'homme et la femme, l'harmonie n'est jamais donnée d'avance. Elle doit se conquérir. Et c'est à la femme, de par son charisme propre, d'y travailler et d'y entraîner son mari. Si la femme n'a pas le souci constant de cette unité, elle ne répond pas à sa vocation et la mission de réconciliation qui lui est confiée n'est plus assumée. Du même coup, l'avancée vers le royaume céleste, où seront consommées les noces définitives, dans l'unité parfaite, est dangereusement entravée. Belle victoire du grappin, comme dirait le curé d'Ars, et quelle carence pour l'humanité tout entière. Alors si la femme doit être artisan d'unité dans le couple, elle doit l'être aussi de façon plus large encore, et aujourd'hui, je dirais, plus que jamais, au cœur de la famille. Les familles sont des maisons fragiles, d'autant plus qu'à notre époque, elles sont trop souvent construites sur le sable du plaisir égoïste et de l'épanouissement personnel. Quand survient la tempête, elle ne résiste pas et les dégâts sont terribles, parfois irréparables. Or, la tempête fait rage en nos temps. Le diviseur est toujours au travail pour séparer ce que Dieu a uni. Aujourd'hui, il combine pour rendre l'homme et la femme indépendants l'un de l'autre et leur donner l'illusion qu'ils peuvent ainsi mieux s'épanouir l'un sans l'autre. La femme doit se rappeler sans cesse qu'elle est la gardienne et la protectrice de son foyer et exercer avec assiduité son charisme de réconciliation au service de son couple, de sa famille et finalement au service de la société tout entière. À une maman à qui l'on demandait d'inscrire sa profession sur un papier administratif, elle écrivit « experte en harmonie familiale ». Après avoir dit que la Vierge Marie est modèle de l'épouse dans toute la perfection du terme, mais aussi instrument de réconciliation, il nous faut ajouter également, comme pour réunir en elle toutes les marques de la féminité, qu'elle est la mère incomparable. Donc c'est sur cette troisième et dernière prérogative que nous allons maintenant nous arrêter. Marie, mère idéale. C'est de la maternité, si souvent dévalorisée aujourd'hui, dont Dieu a voulu avoir besoin dans l'acte où il se passait de l'homme, nous dit Manaranche. Ce fait ne peut être ni nié ni minimisé. Marie a connu le bonheur d'être mère, mère du Verbe et donc mère de Dieu lui-même, incomparable dignité. Ceci dit, que Dieu ait choisi une femme pour lui donner un corps, cela semble aller de soi. Et il est vrai que certains s'arrêtent à cet aspect de la maternité de Marie. Mais il faut aller plus loin en donnant aussi à cette paternité une dimension d'ordre spirituel. De fait, en réduisant ce vocable à une traduction trop uniquement biologique, on risquerait d'une certaine façon de ne faire de la Vierge Marie qu'un instrument passif dont Dieu se serait un instant servi pour son œuvre de salut, laquelle se serait ensuite accomplie sans elle. Non, c'est à tout le plan de Dieu qu'elle est associée. Redisons-le, Marie n'est pas réquisitionnée par les soldats, comme ce fut le cas pour Simon de Cyrène, sur le chemin du calvaire. Elle est sollicitée par Dieu comme libre partenaire de cette alliance qu'il veut conclure avec elle et, à travers elle, avec toute l'humanité. Bienheureuse est-elle, certes, par sa maternité physique, mais plus encore par tout ce qui l'a permise et qui l'a rendue disponible pour une maternité beaucoup plus vaste, puisque d'ordre spirituel. Elle est là, au calvaire, c'est l'heure où le Christ élevé sur la croix attire tous les hommes à lui. Et voici qu'il la compare, cette heure, à celle de la femme. Jean chapitre 16, verset 21. Comment mieux traduire ce qui se vit au calvaire, où va s'opérer cet enfantement du peuple messianique, et comment, de ce fait, Marie n'y serait-elle pas présente? Car, en réalité, il existe un lien étroit entre le fiat, le oui de Marie à l'Annonciation, donnant naissance au Verbe dans la foi, et ce fiat du calvaire, où elle consent toujours dans la foi à l'enfantement du nouveau peuple de Dieu. Le glaive prédit par Siméon qui transpercera son âme l'associe à cette naissance chèrement acquise du peuple messianique. Et comme pour souligner cette maternité spirituelle, Jésus en croix s'adresse à sa mère en lui disant « Femme, voici ton fils » et aux disciples « Voici ta mère. » Là, au pied de la croix, Marie devient la mère spirituelle de tous les disciples du Christ. Nous sommes ce lignage de la femme dont parle la Genèse au chapitre 3, verset 15. Nous sommes le reste de ses enfants, qu'évoque l'Apocalypse, chapitre 16, verset 17. Tous les privilèges qu'elle a reçus de Dieu lui ont été donnés aussi en vue de cette maternité. C'est par son entremise que les hommes trouvent Jésus et accèdent au monde de la grâce, comme c'est par l'entremise de la femme que sans cesse de nouveaux hommes sont donnés au monde. Et si la femme révèle à l'homme ce qu'il est en profondeur, Marie fait comprendre aux chrétiens de quel amour ils sont aimés de Dieu, par l'amour qu'elle-même leur a manifesté en souffrant pour leur enfantement les douleurs atroces du Golgotha. Ajoutons encore une chose. Il est remarquable que Jésus dise, une fois qu'il a confié Jean à Marie, « Tout est accompli ». De fait, il ne pouvait retourner au Père qu'après avoir mis toutes choses en place. Et la dernière chose qu'il met en place pour accomplir jusqu'au bout l'œuvre du salut demandée par son Père, c'est cette maternité spirituelle qu'il confie à Notre-Dame. Ainsi, cette maternité est le dernier don que Dieu nous fait. Ce don n'est pas le moindre, car nous savons tous quelle importance revêtent pour ceux qui restent les dernières paroles d'un mourant. De même que la création du monde fut achevée par la création de la femme, l'accomplissement du salut s'achève par le don de la femme à l'humanité. C'est donc par le don de Marie que Dieu confie l'humanité à toute femme. Eh bien, comme la Vierge Marie, en tant que femme, nous sommes mère par vocation, donneuse de vie. Tout notre être est conçu en fonction de notre vocation à être mère. Quelle que soit la forme de notre maternité, naturelle ou spirituelle, elle a toujours pour modèle la Vierge Marie, qui a si bien répondu à cette vocation de la maternité grâce à la plénitude de tous ses dons. Jean-Paul II, dans Mulieris Dignitatem, au paragraphe 18, nous dit « La maternité est liée à la structure personnelle de l'être féminin et à la dimension personnelle du don. » Pourtant, dans notre monde postmoderne, la femme croit souvent qu'elle n'a pas d'autre solution pour échapper au pouvoir de l'homme que de lui ressembler, sans réaliser que pour cela, elle doit renier sa féminité. Sous cet angle, en effet, la maternité devient le handicap majeur qu'il faut absolument maîtriser. Il est impossible de travailler comme un homme quand on attend un enfant. Le résultat inquiétant donné par les statistiques au sujet du taux de renouvellement des générations montre bien qu'un grand nombre de femmes ne veulent plus aujourd'hui donner la vie. Beaucoup ne sont plus prêtes à ce don. Certes, il faut bien le reconnaître, il n'y a pas de maternité sans sacrifice. Donner sa vie, ses forces, tout soi-même dans le quotidien, relève souvent de l'héroïsme. Mais réalisons-nous les conséquences humaines et spirituelles que représente pour nos sociétés ce refus de la maternité naturelle ? Pourtant, nous dit Jean-Paul II, Dieu a confié l'homme à la femme. À l'encontre des cultures de la mort et de l'idéologie du transhumanisme prônée par notre monde, l'Église encourage plus que jamais les femmes dans leur mission au service de la vie, très consciente qu'elle est qu'il en va de l'avenir de l'humanité. Mais donner la vie à un être humain ne consiste pas simplement à lui donner le jour. Avez-vous remarqué la formule employée lors du premier enfantement d'Ève ? Je cite Genèse, chapitre 4, verset 1. « J'ai donné l'être à un homme de par le Seigneur. » Ève n'a pas dit « J'ai donné la vie à un enfant. » L'expression utilisée par le livre de la Genèse montre clairement que la vocation de la femme, loin de se borner, est loin de se borner à mettre au monde des enfants. Il lui faudra encore accumuler les actes innombrables d'intelligence et d'amour qui sont indispensables pour élever un enfant et faire de lui un homme. Jean-Paul Dieu, dans Mulieris Dignitatem, au paragraphe 19, ne nous dit pas autre chose. Je le cite. La maternité de toute femme, comprise à la lumière de l'Évangile, n'est pas seulement de chair et de sang. La femme accomplit une forme de maternité affective, culturelle et spirituelle, d'une valeur vraiment inestimable pour le développement de la personne et l'avenir de la société. Et il ajoute, la femme comme mère et comme première éducatrice de l'être humain a une priorité spécifique par rapport à l'homme. Fin de citation. Le livre de la Genèse nous révèle que la femme, contrairement à l'homme qui, lui, est tiré de la glaise du sol, la femme est formée à partir d'une des côtes d'Adam, donc du cœur même de l'humain. Jo Croissant ou Geneviève Blaquier, je ne sais plus, l'une des deux, révèle que, de ce fait, c'est vers l'humain que la femme est d'abord tournée, et ceci afin de l'éduquer et de le faire progresser vers son Créateur. On pourrait dire que si l'homme se caractérise par la puissance et l'agir, la femme, elle, se définit davantage par la présence et l'être. Le ministère si essentiel de l'instruction religieuse des enfants est lié à cet enfantement dont elle est chargée. Ce travail exige d'elle un dévouement maternel pour faire grandir, naître d'abord, puis grandir le Christ dans les âmes. N'est-ce pas là une magnifique forme de maternité spirituelle ? La femme collabore aussi à l'épanouissement de la vérité religieuse semée par les ouvriers apostoliques, un peu comme l'Esprit Saint conduit les hommes à l'intérieur de la révélation apportée par Jésus. N'est-ce pas ce même Esprit Saint qui, après avoir présidé invisiblement au mystère de l'incarnation, préside encore invisiblement à la naissance des enfants adoptifs de Dieu, les éduque en leur procurant peu à peu les mœurs de cette famille où ils sont introduits par le baptême? Eh bien, dans le prolongement de cette action du Saint-Esprit, il y a sans aucun doute pour les femmes chrétiennes, quelles qu'elles soient, un travail similaire d'enfantement. De fait, il existe une réelle complicité entre la femme et le Saint-Esprit. Comme lui, sa mission est bien souvent cachée, pourtant elle n'en demeure pas moins essentielle. Jean-Paul II, soulignant le rôle irremplaçable tenu par la femme pour l'avancée de l'humanité, précisait, je le cite, « La femme s'est engagée d'une manière admirable dans la grande œuvre de l'éducation. Son génie féminin est un grand facteur de progrès humain spirituel. » Quelques années plus tard, à Lourdes, il développera ce thème en nous invitant à être les sentinelles de l'invisible. « Soyez ces sentinelles de l'invisible, disait-il. Sans vous, notre monde de demain serait privé des yeux du cœur. » Et il ajoutait, « Les femmes sont les témoins des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. » N'est-ce pas beau ? Nous le savons, l'avenir de notre société dépend de l'éducation des générations futures. Or, il y a aujourd'hui de graves carences dans l'éducation. Est-on suffisamment attentif à l'éducation spirituelle, à l'éducation à la prière ? L'éducation à la découverte de Dieu et au mystère de l'être humain. Les mamans ont une mission irremplaçable dans ce domaine, mais aussi toutes les autres femmes, y compris les célibataires et les consacrées. Nous sommes toutes appelées à remplir cette mission d'éducatrice pour être ces sentinelles de l'invisible. Benoît XVI insistait sur l'importance de cette tâche spécifique de la femme lors de son voyage en Angola le 22 mars 2009. Voici ce qu'il disait. Aujourd'hui, qui ne perçoit le besoin d'accorder plus de place aux raisons du cœur ? Dans une civilisation comme la nôtre, dominée par la technique, on ressent le besoin de cette complémentarité de la femme, afin que l'être humain puisse y vivre sans se déshumaniser complètement. Il suffit de penser aux terres où règne la pauvreté, aux régions dévastées par la guerre, à de nombreuses situations dramatiques découlant des migrations forcées ou non. Ce sont presque toujours les femmes qui y maintiennent intacte la dignité humaine, défendent la famille et sauvegardent les valeurs culturelles et religieuses. » Fin de citation. Et nous voici arrivés au terme de notre réflexion. Ne pouvons-nous pas trouver, dans tout ce que nous venons de dire, un magnifique programme de conversion pour ce carême 2018, en étant de plus en plus ce que nous devons être ? Point n'est besoin de renier notre féminité pour partir à la conquête de la perfection. La perfection de notre état, c'est Marie, créature parfaite, Marie, femme parfaite. Rien à renier, tout à sublimer avec elle comme lumière, guide et avocate. Aussi, accueillons avec reconnaissance cette exhortation de Benoît XVI aux femmes angolaises lors de son voyage en Afrique. Voici ce qu'il disait. « Prenez la Vierge Marie comme votre avocate auprès du Seigneur. C'est ainsi que nous la connaissons depuis les noces de Cana. » Comme la femme bienveillante, pleine de sollicitude maternelle et de courage. La femme qui perçoit les besoins des autres et voulant y remédier, les porte devant le Seigneur. Auprès d'elle, nous pouvons tous retrouver la sérénité et la confiance intime qui nous font nous sentir heureux en Dieu et infatigables dans la lutte pour la vie. Et il terminait en disant « Puisse la Vierge Marie être l'étoile de votre vie, qu'elle vous garde unie dans la grande famille de Dieu. » Et je terminerai volontiers par ces remerciements que Jean-Paul II adressait à toutes les femmes, donc à chacune de nous. « Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme. Par la perception propre à ta féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. Puissions-nous donc être toujours plus femmes, toujours plus dignes de ce magnifique charisme qui est le nôtre, que le Seigneur, en ce carême, nous en obtienne la grâce. »